Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Si nous allons ouvrir notre Bible, et je vous propose que nous fassions deux lectures. La première, nous allons la faire dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe, alors vous connaissez, parce que c'est un des sujets les plus connus, dans le chapitre 53 et au verset 4. Livre du prophète Ésaïe, chapitre 53, verset 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé par nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Alors avant de passer à la seconde lecture, j'aimerais en effet dévoiler l'identité de celui dont il est question. Alors vous l'avez deviné, vous êtes des gens assidus à la lecture de la Bible. Il est exprimé « il ». Il était blessé. Le châtiment est tombé sur lui et toutes sortes de calamités, toutes sortes de jugements, punitions. Alors il s'agit naturellement, et c'est une approche prophétique qui est inspirée au prophète Ésaïe en parlant de Jésus. Vous savez que l'histoire s'est inscrite tout simplement dans le temps. Et on sait très bien, Ésaïe était un prophète d'Israël, et il parlait sous l'inspiration de Dieu en vue de la venue du Messie pour les Juifs et du Sauveur, du Rédempteur pour tous les hommes. Alors c'est vrai que c'était une époque reculée, il était à peu près 800 ans avant la venue de Jésus, et nous voyons qu'il y a là quelque chose de tout à fait à la fois pathétique, touchant, qui est d'une précision magnifique, nous pourrions dire, une grande précision, parce que c'est l'énumération, le détail des souffrances que Jésus connaîtrait lorsqu'il viendrait pour accomplir le salut de Dieu parmi les hommes. Et c'est vrai que c'est un des textes, Ésaïe 53, c'est un des textes les plus précis en ce qui concerne la révélation, eh bien, du salut de Dieu. En tous les cas, dans la personne de Jésus-Christ. D'ailleurs, c'est à ce titre que les commentateurs de la Bible, ou ceux qui ont été véritablement des hommes plongés dans l'Écriture, l'ont appelé, c'était l'Évangile avant l'Évangile. Ésaïe, c'est l'Évangile avant l'Évangile. Alors, vous avez remarqué avec moi, je ne voudrais pas dire grand-chose sur ce passage, parce que ça va nous amener à prendre en considération, ou à illustrer cette histoire. C'est vrai que il nous est simplement dit que les hommes l'ont méprisé. Je ne l'ai pas lu ça, mais c'est juste avant. Qu'il a été dédaigné, qu'il a été repoussé, parce que les hommes de cette époque, de l'époque du temps de Jésus, n'avaient véritablement aucune idée de ce que pouvait représenter le Messie de la manière dont il est venu. Oh, ils s'attendaient à un Messie glorieux, ils s'attendaient à un Sauveur tout-puissant qui manifesterait avec éclat, avec gloire, la puissance et la justice de Dieu, mais c'est pas comme ça que les choses se sont passées. Et c'est pourquoi il y a ce petit mot, cette liaison, il est dit, mais cependant, voilà, malgré l'indifférence, malgré le mépris, malgré le rejet, malgré finalement le désintérêt du peuple d'Israël, cependant, c'est à cause de nous. Nous, tous les hommes, dans tous les temps, jusqu'à nous, personnellement, maintenant. Et il a payé. Il a été chargé de nos maladies, de nos souffrances, et nous l'avons considéré lorsque nous l'avons regardé comme quelque chose qu'il méritait, en quelque sorte. Mais le prophète dira, mais c'est pour nous. Il a été blessé, mais c'est pour nos péchés qu'il a été véritablement, eh bien, blessé. Le châtiment qui aujourd'hui nous donne la paix, c'est-à-dire le salut de Dieu, la réconciliation avec Dieu, eh bien, il est tombé sur lui. Et il y a pas mal de choses dans ce genre-là. J'aimerais maintenant, on y reviendra tout à l'heure, mais j'aimerais justement illustrer un deuxième passage, enfin en tous les cas faire la lecture d'un deuxième passage, c'est dans Romains, ça coule de source parce que c'est, on pourrait dire, la complémentarité de ce que nous avons évoqué il y a un instant. Dans Romains chapitre 5 et au verset 6, et là il y a une précision qui nous est donnée pour nous montrer que ce qu'Ésaïe avait entrevu prophétiquement, eh bien c'est réalisé. Et l'apôtre Paul, qui là maintenant va écrire, et va nous laisser cette lettre que l'on appelle la lettre aux Romains, eh bien va confirmer que ce qui avait été dit 800 ans auparavant s'est trouvé, eh bien, accompli dans sa pleine exactitude. Et il expliquera ceci, il dira au verset 6, « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, lorsque nous étions dans le péché, voilà, c'est le mot, hein, que nous étions sans force d'une façon ou d'une autre, que nous étions condamnés à cause de nos iniquités, de nos péchés, Christ, au temps marqué, est mort pour les impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un mourrait-il pour un homme de bien ?» La question est posée. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, nous étions perdus, nous étions irrémédiablement séparés de Dieu, alors Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, parce que nous le croyons, alors serons-nous sauvés par lui de la colère. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, serons-nous réconciliés et sauvés par sa vie. Voilà cette deuxième lecture qui vient vraiment confirmer la première. Je vous l'ai dit, il s'est passé plus de 800 ans entre ces deux textes, ces deux révélations. La première, c'était vraiment prophétique, la deuxième, c'est l'accomplissement de la prophétie, qui était quelque chose de tellement patent et tellement probant que le monde entier, avec ça, aurait dû se tourner vers Dieu et les Juifs accepter leur Messie. Il n'en est point ainsi, mais néanmoins ça ne change rien à la situation de ce que quelqu'un a payé pour nous. Si nous sommes là cet après-midi, c'est parce que nous croyons en Jésus. Nous croyons que Dieu a mis en place, non seulement pour nous, mais pour les hommes du monde entier à travers tous les temps, un plan de salut. Et il appartient à chaque homme d'en bénéficier ou non, de l'accepter, d'acquiescer ou de refuser, tout simplement. J'aimerais justement étayer un petit peu cette doctrine de Paul, qui est toujours un petit peu difficile à comprendre. Paul est un petit peu compliqué, mais c'est simple, dans ce sens que si nous retenons l'essentiel et le principal, eh bien ça c'est important. Et cette histoire, peut-être pour certains, vous l'avez déjà entendue, et j'aimerais la rappeler parce que elle illustre d'une manière admirable, eh bien, le fait même de cette prophétie du prophète Ésaïe et de ce que nous confirme l'apôtre Paul quand il est question que nous avons été sauvés, mais que nous ne sommes pas sauvés nous-mêmes, que nous ne sommes pas sauvés par nos mérites ou par nos qualités d'homme. Et Paul le dira dans Éphésiens, il dira, mais c'est par la foi, vous êtes sauvés par grâce et par le moyen de la foi, afin que personne ne se glorifie. C'est tout simplement, eh bien, là, un plan gracieux de Dieu qui nous est offert, et nous sommes à même de le comprendre, de l'accepter. Et je voudrais ajouter cette histoire. C'est une histoire, est-elle vraie ou pas, mais toujours est-il que dans les faits, c'est une réalité. Et quand il est dit d'ailleurs, quelqu'un mourrait-il pour un juste ? Or, la Bible nous révèle que non seulement Jésus est mort, mais il n'est pas mort pour des justes, lui qui était juste, mais il est mort pour des injustes. Alors, cette histoire est la suivante. Paraît-il que elle est très ancienne, je veux bien le croire. Elle est du début du monde, en quelque sorte. C'est l'histoire de deux frères jumeaux. Il arrive que dans les familles, on attend un enfant, il y en a deux. Quelquefois, il peut y en avoir plus. C'est pas toujours, en effet, mais bon,
Voilà, c'est l'histoire de deux frères, ils sont jumeaux, et ils sont, lorsqu'ils sont côte à côte, impossible de les reconnaître. Dans l'aspect physique, sur l'aspect peut-être plus intérieur, dans leur démarche, dans leurs paroles, leur voix, etc., c'est du pareil au même. C'est ce qui fait la caractéristique des vrais jumeaux, hein. Quelquefois, il y a des jumeaux, mais qui se ressemblent pas. Surtout quand il y a un petit garçon et une petite fille, hein. Là, c'est, la différence, elle est faite. Mais, là, dans le cas qui nous intéresse, eh bien, c'est vraiment des êtres semblables. Et très difficile à discerner, les distinguer l'un de l'autre. Et voyez-vous que c'était déjà des jeunes gens. Oui, probablement des jeunes gens, ils vivaient ensemble. Parce que c'est aussi le fait de la jumélité, hein, c'est comme ça que je crois que l'on dit, et qui fait que, bon, ils ont du mal à se séparer. Alors, ils vivaient ensemble, et puis, si l'on fait un peu le descriptif de l'un et de l'autre, malgré que c'est très difficile, mais néanmoins, il y avait quand même quelque chose qui les démarquait, en effet, d'une manière très, 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 très visible. Le premier, qu'on l'appelle Pierre, Paul ou Jacques, ça n'a pas d'importance, le second, on peut lui donner un autre nom, mais c'est pas tant dans le prénom qui est la différence. Le premier était un brave garçon. Il avait un bon métier, il travaillait, il avait certainement beaucoup de qualités, et il était très respecté parce qu'on le reconnaissait comme tel. Voilà, quand on parlait de parmi les deux, eh bien, il y avait celui-ci, il y avait Pierre, par exemple. Et quand on discutait de lui, eh bien, on disait, mais vraiment, c'est un garçon formidable, toujours prêt à rendre service auprès des gens, avec toujours, eh bien là, des attentions, de la bienveillance. Vraiment, il n'était pas parfait, mais il avait ça en lui. C'était un garçon qui avait ce caractère de bonté. Et on ne pouvait pas dire la même chose de son frère. Pourtant, même éducation, ils se sont suivis l'un et l'autre. Son frère était tout le contraire, c'était un garçon qui était paresseux, qui était remarqué pour son oisiveté, et il passait tout son temps à dilapider sa vie. Il jouait, il dépensait son argent, ou le peu d'argent qu'il avait, ou l'argent que son frère lui donnait, puisqu'il y en a un qui travaillait, et quelquefois, eh bien, ça passait d'une main dans l'autre. Et il se caractérisait aussi par pas mal de défauts, de mauvaises dispositions, et notamment la boisson qui elle-même l'amenait à l'ivresse. Et vous savez que tout cela, eh bien, ça peut dégénérer très vite, et nous allons le voir d'ici quelques instants. Alors il partait le soir, et il rentrait au petit matin. Son frère, lui, rentrait le soir pour dormir, et il allait travailler au petit matin. Comme quoi, ça peut être très inversé tout cela. Alors c'était sa manière de vivre, il n'attendait pas les week-ends, il partait tous les jours, etc., etc. L'un et l'autre. C'était vraiment la différence. Alors, combien de fois, précisément, le garçon vertueux, le jumeau vertueux, disait à son frère, et non seulement lui disait, mais lui recommandait, voire même le suppliait, de devenir plus sérieux qu'il ne l'était, ou tout simplement devenir adulte, finalement, d'arriver à mettre un terme à ses mauvaises dispositions, à ses penchants. Alors peut-être, à ce moment-là, pouvait-il invoquer en disant « mais c'est plus fort que moi ». Bien sûr, c'est mon caractère. Alors, vous pensez que le premier ne se reconnaissait pas, hein, puisque c'était le jour et la nuit, on peut dire, hein, c'était tout à fait l'inverse. Et de lui faire des recommandations assez souvent, je ne sais pas si c'était des paroles de morale, mais en tous les cas, le premier était profondément attristé du comportement de son frère jumeau. Et il essayait de l'amener à faire en sorte qu'il puisse trouver la bonne voie. Il l'avait jamais trouvé jusqu'ici. Et lui signifier que ses fréquentations étaient des mauvaises fréquentations. Et de travailler, de se stabiliser, dans l'espoir qu'un jour, eh bien, toutes ces facéties ou toutes ces bêtises allaient disparaître avec le temps. Vous savez, quelquefois, on peut toujours espérer que le temps arrange des choses. Soit ça les arrange, ou soit ça les dérange complètement, hein. Ça s'envenime. Alors, les choses étaient ainsi, naturellement. Et lui, naturellement, quand on lui disait ça, quand son frère lui disait ça, eh bien, il se moquait, il trouvait toujours des prétextes. Oui, mais tu sais, ceci, cela, etc. Il en riait, comme cela allait avec son caractère. Et il disait, mais tout simplement, bien, plus tard, oui, plus tard, moi, je veux pas gâcher ma jeunesse. Je ne veux pas gâcher ma vie, je veux pas bon, toi, tu es sérieux, c'est vrai, on le reconnaît, mais moi, je veux pas perdre mon temps à ceci et cela. Alors peut-être que d'ici quelque temps, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors c'était toujours plus tard, plus tard, plus tard. Mais finalement, eh bien, voilà, nous allons découvrir que quelquefois les plus tard deviennent des trop tard et qu'il n'y a plus rien à faire. Donc on va le découvrir. J'ai bien encore le temps, disait-il à son frère. Et puis un beau jour, ou plutôt une nuit, parce que on a bien souligné que c'était un homme, un noctambule, très tard, au milieu de la nuit. On vit de loin, dans la pénombre, une silhouette qui se précipitait en direction de la maison où habitaient les deux frères. Voilà. Cette maison était à la sortie du village, sur la colline, reconnaissable entre toutes. Peut-être était-elle unique sur cette route qui gravissait la colline. Et il y avait justement, eh bien, cette nuit-là, une silhouette qui se précipitait, qui sortait du village pour monter à la maison, pour aller avec célérité, nous pourrions dire, précipiter dans la direction de cette maison. Qu'est-ce qui se passait? On ne savait pas, c'était la nuit, naturellement. L'homme qui courait, l'homme qui se précipitait dans cette direction était celui qui dissipait sa vie. On sentait, quand on s'est approché un petit peu plus, qu'il était haletant, qu'il était épuisé, qu'il était terrorisé. Il y avait là, sur son visage, comme un effroi, comme une frayeur, à la lumière de la lampe. Quand il s'est précipité, il a tambouriné à la porte. Son frère est venu, ce que vous avez compris, son frère est venu, naturellement, lui ouvrir, et là, il a vu un spectre. Il a vu son frère qui était dans un état de confusion terrible, dans un affolement inimaginable. Son visage était blême, il était pâle comme la mort, et ses vêtements, quand on y regardait de plus près, étaient déchirés, et il y avait quelque chose de tout à fait particulier, c'est qu'ils étaient maculés de sang. Il y avait du sang sur ses vêtements. Ce garçon qui était rentré précipitamment, ce frère qui était rentré précipitamment. Et il tremblait tellement, son frère le pressait de questions, son frère peut-être se doutait qu'un jour fallait bien qu'il y arrive quelque chose, mais toujours est-il qu'il va le questionner, il va le presser, il va multiplier naturellement cette interrogation, et il pouvait à peine parler, il bredouillait, il était complètement dans une confusion impossible de s'expliquer. Mais il disait une chose, « Cache-moi, cache-moi, mets-moi à l'abri, dissimule-moi quelque part !» Parce qu'il suppliait son frère, et bien finalement, d'échapper à quelque chose. Et en jetant un regard vers l'arrière, vers la fenêtre, eh bien, il remarquait qu'il y avait des gens qui venaient le chercher, qui étaient passés après lui, qui venaient après lui, et il ne disait continuellement la seule chose qu'il pouvait, mais ils vont me tuer. Ils vont me mettre à mort. Ils vont me tuer. Et c'est vrai que déjà sur la colline, il y avait là tout un cortège. Sur le chemin qui mène à cette fameuse maison, on apercevait une foule. Une foule avec des mauvaises dispositions, une foule furieuse, qui criait, qui hurlait dans la nuit, et qui surgissait dans l'ombre. Et à bien s'approcher ou regarder un peu plus près, ils étaient armés de bâtons. D'autres avaient peut-être des fourches, enfin toutes sortes de choses. Et tout le monde criait, tout le monde hurlait. Et plus ils s'approchaient naturellement, eh bien, plus la frayeur montait dans la maison. Alors qu'est-ce qui avait pu se passer? Qu'est-ce qui s'était passé pour en arriver à une telle situation? Alors, le frère, le mécréant, le fils prodigue, on pourrait dire, vous connaissez hein, l'histoire, parce que c'est la même histoire en quelque sorte, eh bien, a pu dire simplement, pressé par les questions de son frère, « Mais nous avons bu, ouais, j'étais descendu ce soir, et puis nous avons bu outre mesure, et il y a eu une dispute, et nous nous sommes battus. » Et il ajoutera, « Mais il est tombé à la renverse. » Ouais, il est tombé à la renverse, sa tête a heurté une table et il s'est tué. Il s'est tué. Il y a quand même eu une dispute. Il y a eu une altercation violente. Il y a eu des mains, il y a eu des gestes, il y a eu une bousculade. Voilà l'histoire. Comme ça peut arriver, et là, c'est comme ça arrive. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il n'y a pas une journée aujourd'hui alors où on n'entend pas, où la chronique est défrayée à travers des assassinats, à travers des hold-up, à travers toutes sortes de choses. Dans une certaine région de France, en ce moment, c'est tous les jours dont nous entendons parler, et c'est des jeunes hein, qui s'entretuent entre eux et qui fait tout l'affolement des quartiers. Hein. Alors donc, c'est pas quand même c'est pas nouveau tout ça. Vous savez, Caïn est toujours vivant, hein. Vous savez qu'il a tué son frère. Vous êtes au courant, non? Pourtant, voilà. Et il a fait des émules, Caïn. Alors, les choses se sont passées de cette manière, et dans sa frayeur, n'osant pas dire peut-être les choses comme il fallait, mais il est tombé, malheureusement, je l'ai poussé, et voilà que... Eh bien, il est mort, il s'est tué, tout simplement. Alors, il répond, il répète, ce frère, il dit, mais cache-moi le plus vite possible, parce que ils sont derrière, ils vont bientôt frapper à la porte. Alors, le brave frère a su tout de suite ce qu'il fallait faire. Vous savez, ce frère dont je vous ai parlé, qui se caractérisait par sa bonté, par son sens de la justice, voire même par son abnégation, nous allons le découvrir, à travers ce garçon qui faisait la louange et qui recevait le crédit de tous ceux qui le connaissaient. Alors il a su tout de suite, eh bien, comment se comporter et quelle solution donner à cette catastrophe, à ce qui venait d'arriver. Vous savez ce qu'il a fait? Sans hésiter une seconde, il a arraché ses vêtements. Il s'est défait de ses vêtements et il les passa en hâte à son frère meurtrier en lui disant « Mets mes vêtements et donne-moi les tiens ». Vous connaissez, vous voyez un petit peu le scénario, comment ça se passe. Ça s'est passé en une fraction de seconde, enfin en disant en une minute parce qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Il y a eu un échange en ce moment-là. Il y a eu un transfert de vêtements. Et ce frère va lui dire à ce moment-là, sors le plus vite possible et va te réfugier dans la montagne. Va le plus loin possible, quitte la région, mais va-t'en, ne reste pas là. Et il lui recommande une dernière fois, parce que c'est les derniers mots, ne reviens jamais ici. Si tu veux vivre, ne reviens jamais ici. Et il était temps. Parce qu'à ce moment-là, les gens d'armes, comme on les appelait peut-être à l'époque, cette foule vociférante qui hurle, remplie d'une colère que a du mal à s'imaginer, eh bien voilà que tous ces gens surexcités vont faire irruption dans la maison et devant eux, il n'y a plus qu'un frère. Il n'y en a plus qu'un. Devant eux, ils vont voir un homme tranquille. Un homme qui, vont-ils s'apercevoir, a des vêtements maculés, des vêtements déchirés. Il va vite, avant que les gens arrivent, se mettre la main dans les cheveux pour se donner un accoutrement d'excitation, ou, comme vous voulez, de désordre. Et ses mains sont sales, tout ce genre de choses. Il porte les vêtements entachés et sans résistance, sans une parole, sans rien du tout, eh bien on va lui passer les monnettes et quelques jours plus tard, il va être jugé, il va être condamné et on parlera d'ici d'instant, il va être exécuté. Tout le monde a compris cette histoire, naturellement. Mais on va aller plus loin maintenant. Il va être condamné à mort. Si l'on s'en tient au fait et à ce que l'on voit, c'est ça. Voilà, c'est tout. Faut pas dire autrement. La preuve, les vêtements, l'accoutrement, les choses sont ainsi. Dans la ville où s'était passé ce tragique événement, le procès a fait grand bruit. Ah oui, on en parlait au village alentour, on en parlait partout. Parce qu'on ne comprenait pas. On ne savait pas, on connaissait, tous ces deux frères avaient une réputation, de part peut-être parce qu'ils étaient jumeaux, et puis peut-être parce que les parents qui étaient morts depuis longtemps étaient connus aussi. Alors on ne comprenait pas, et c'est vrai que le procès a fait beaucoup de bruit. Et on parlait partout de cette affaire, naturellement, comme après un crime, et que la première émotion passait, il y a un temps qui se passe, et puis après c'est le procès. Et puis après, on attend, voilà, parce que les hommes veulent justice. S'ils savaient ce que c'est que la justice, s'ils savaient ce que c'est. Et devant ces juges et ces accusateurs, parce qu'il y a eu des témoins, cette soirée dramatique, alors tout le monde a vu dans le tribunal que le criminel était d'un calme qui est difficile à décrire. Il était dans une paix, un grand calme. il n'a pas dit un mot pour sa défense. Pas un mot. Et, chose assez curieuse, devant les questions qui lui étaient posées, on le pressait de questions, il n'a pas dit une parole pour sa défense pour dire, finalement, eh bien, ceci ou cela. Il n'a rien dit du tout pour sauver sa vie. Il aurait pu, hein, naturellement. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Autant son frère était en frayeur lorsqu'il est venu après son méfait, dans la panique et peur de mourir, que lui, il n'avait pas peur du tout. Pas peur du tout, vous avez compris pourquoi. Parce que quand on n'a rien fait, on est innocent. Et on ne doit pas avoir peur. Pas avoir peur des hommes. Pas avoir peur de quoi que ce soit. Alors, personne n'osait l'intéresser, lui poser cette question qui aurait pourtant été intéressante, pas même les juges. Poser la question à celui qui était devant le tribunal, mais en disant, mais toi tu es le meurtrier, on va te condamner, tu le sais maintenant, avec ce que tu as fait. Mais personne n'a posé la question pour savoir ce qu'était devenu l'autre frère, le juste. Vous savez, celui qui était un garçon de vertu. Personne. Alors on en a tiré la conclusion, et on chuchotait, hein, ça ne se passait pas ouvertement, mais on chuchotait. Paraît-il qu'il devait avoir une telle honte de ce qui s'était passé, de ce que son frère jumeau avait fait, tuer un homme. Alors, il avait quitté le pays, sans demander quoi que ce soit, sans dire quoi que ce soit, il avait pris son baluchon, et puis il était parti avec la mort dans l'âme en disant « Mais mon frère jumeau, c'est un criminel, tout simplement. » Alors tout le monde était resté sur cette affaire. Et un beau matin a eu lieu l'exécution, parce qu'il faut bien que ça arrive à un moment donné. Ça satisfait les hommes, hein. L'homme demande justice. Il demande qu'il y ait réparation, et la réparation, c'est toujours payé par la mort. Plus dans nos démocraties aujourd'hui, parce que, bon, les choses ont changé. Mais à une certaine époque, voilà, c'était un peu la loi du talion. Et le sang doit expier le sang qui a coulé, tout simplement. Donc, c'était ce moment fatidique de l'exécution. Vous vous souvenez que ce frère avait entendu celui qui est parti, hein, celui qui s'est sauvé. Alors, il était parti très loin dans la montagne. Il avait vraiment pris des distances là avec son pays, avec tout ce qui s'était passé. Mais il y avait quelque chose dans la vie de ce garçon depuis ce fait. C'est qu'il était tourmenté complètement, totalement. Il ne vivait plus dans sa conscience, dans son âme, dans son cœur. Et ça, c'était quelque chose qui était un véritable enfer pour lui. Il attendait le moment qu'il y ait une occasion, une opportunité pour revoir discrètement, naturellement, son frère, qui lui manquait beaucoup. Parce que il savait très bien, lui, ce qu'il avait fait. Il ne savait pas ce qui s'était passé depuis, mais il dit, mais pourtant, je voudrais revoir mon frère. Et en pensant que tout devait s'arranger, ou tout avait dû s'arranger depuis, en pensant que son frère aurait dit, ben voilà, il s'est enfui, et puis maintenant, cherchez-le, mais cherchez-le ailleurs. Il ne savait rien de ce qui s'était passé, de la condamnation et de l'exécution. Alors, n'y tenant plus, il s'est déguisé, il est venu avec des vêtements, peut-être d'un autre genre, avec un grand chapeau de feutre, et puis peut-être avec la barbe, je ne sais pas, enfin un déguisement, et il est revenu un jour dans le village, dans la ville, tout simplement, et pour lui-même, il se disait « je ne serai pas reconnu », et c'est vrai qu'il était méconnaissant, il s'était passé peut-être des mois et des années, et il se disait « bien voilà, je vais me mêler à la population », et il a bavardé avec les uns. Lui, personne ne le reconnaissait, mais lui reconnaissait tout le monde. C'est l'enfant du pays, naturellement. Alors il a bavardé, il a questionné, il a interrogé sur cette malheureuse affaire, qui était déjà vieille, déjà depuis un certain temps, mais qui n'avait jamais été oubliée par les gens, parce que ce sont des choses qu'on n'oublie pas, hein. Moi, je ne sais pas quelle avait été la victime, et la connaissance que les gens avaient de la victime, mais ça devait être quelqu'un qui devait être très aimé pour vouloir, finalement, eh bien là, et réclamer la peine de mort pour le meurtrier, certainement, mais ce qui est tout à fait normal en termes juridiques. Cette histoire n'avait jamais été oubliée. Et là, à ce moment-là, en passant d'une personne à une autre, questionnant, il a appris. Il a appris que le meurtrier avait été pris, qu'il avait été jugé et qu'il avait été promptement exécuté. Ah, ça a été quelque chose. Terrible, imaginez-vous. Comment une chose a-t-elle pu se faire? Il était venu pour revoir son frère, tenter de le revoir et il apprend qu'il est mort. Et qu'il est mort d'une manière terrible. Qu'il est mort à sa place. Et dans le village, on disait ne pas savoir ce qu'était devenu le frère jumeau, si apprécié de tout le monde. On disait toujours, on lui disait, mais l'un est mort, parce qu'il a été exécuté naturellement à cause de ce qu'il a fait, mais l'autre, il est parti au loin. Il s'est réfugié certainement dans un autre pays. Et on lui montrait sur la colline, on lui disait, tu vois, c'était la maison des deux frères, c'était la maison des frères jumeaux. Et aujourd'hui, depuis ce drame, elle est fermée, elle est abandonnée, elle est livrée aux ronces et aux épines. Il n'y a plus personne. Alors il regardait et je crois que ça, c'était quelque chose d'épouvantable pour lui. Alors à ce moment-là, le frère criminel, le vivant, il a poussé un cri. Ouais, quelque chose qui est sorti de sa poitrine, un cri de désespoir et aveuglé par les larmes. Savez-vous ce qu'il a fait? Il a couru à la maison du gouverneur, tout simplement, pour tout avouer. Pour dire, eh bien, vous avez tué un innocent, c'est moi le criminel. Ouais, c'est moi le criminel. Mais mon frère, il était innocent. Ah, vous l'avez vu? Vous ne pouvez pas le reconnaître parce que vous ne les avez jamais reconnus l'un et l'autre. Mais c'est vrai que qu'il y avait du sang sur ses mains, sur ses vêtements. Et vous avez peut-être... Il vous a rien dit au tribunal parce qu'il a gardé le silence. Il était dans la paix, tout simplement. Alors vous avez tué un innocent. Et le meurtrier, c'est moi. Et il crie. C'est moi le meurtrier. Et non mon frère. Lui, il était innocent. Moi, je suis le meurtrier. Alors, arrêtez-moi, parce que me sert-il de vivre maintenant, ne sachant que mon frère est mort, et qu'il a donné sa vie pour moi? Le gouverneur lui a répondu ceci, que ton frère ait été innocent, nous ne pouvions le savoir. Évidemment, nous ne pouvions le savoir parce qu'il n'a rien dit. Il n'a pas dit une parole. Ses vêtements faisaient preuve de sa culpabilité, le sang qui était sur lui. Tout l'accusait. Alors, le gouverneur va lui dire « vie pour vie ». Un homme a perdu la vie, il fallait qu'un autre homme puisse, le coupable, eh bien puisse aussi donner sa vie. Et cet homme de loi lui dira « maintenant l'affaire est close, hein. C'est fini, on ne revient plus en arrière, c'est terminé, tu vas, tu es libre, tu peux partir, mais tu tiens ta langue ». Ouais. Que pouvait-on faire? On ne pouvait pas tuer deux hommes pour la mort d'un, il y en avait un qui avait déjà donné sa vie. Et tu tiens ta vie, maintenant, si tu permets un conseil, eh bien tu changes de vie parce que quelqu'un a payé pour toi. La dette est effacée. L'ardoise a été effacée, tout simplement. Au moment où ce garçon, dans un état dont nous pouvons nous imaginer l'angoisse et le désespoir, ce sentiment qui l'envahissait à la fois de honte, et se sentant d'une culpabilité écrasante à mourir. Alors le gouverneur, le voyant partir, va le reprendre. Il va lui dire, tiens, j'ai quelque chose encore à te dire. Attends un peu. Ton frère que la justice a exécuté, a laissé une lettre. Une lettre pour son frère jumeau. Alors nous ne savons pas qui est qui maintenant, je sais, puisque c'est toi qui as dit que tu étais le coupable. Mais il a laissé une lettre. Et si tu es bien celui-ci, puisque tu le dis, eh bien, lis-la cette lettre. Et il y avait sur un bout de papier qui avait été écrit à la hâte, le fameux soir du drame. Et on prend pas la... Voilà, à ce moment-là, les choses sont faites à la va-vite. Sur un bout de papier était griffonné, à la hâte, ces quelques mots. Mon cher frère, d'ici quelques jours, je vais être jugé, condamné et vraisemblablement exécuté. Je vais mourir. Sache que j'y consens librement. Je consens à mourir à ta place de plein gré, je vais partir revêtu de ta tunique maculée de sang. » Ce que je fais, je le fais pour toi et par amour pour te sauver du jugement. Il y avait cette petite phrase qui faisait suite. Il était question de ceci. Mon cher frère, je te demande une seule chose, une seule et unique chose. C'est que, puisque je meurs dans ta tunique et je meurs dans ton péché, je te supplie, vis de ma vie. Vous comprenez ce que ça veut dire? Vis de ma vie, dans ma tunique sans tache, ou dans la tunique sans tache, vis comme j'ai vécu. Le bon arien, le mécréant, écrasé par la douleur et la souffrance, avait le devoir de continuer à vivre. Peut-être plus facile de mourir, hein, que de continuer à vivre. Mais à la seule différence, qui est celle-ci, et qui est véritablement la gloire de l'Évangile. Écoutez bien. Plus jamais, sache que plus jamais, comme avant, je te demande de vivre. Je te demande d'imiter la vie que moi j'ai eue, que j'ai tenté d'avoir en tous les cas, et cette vie qui s'est sacrifiée tout simplement pour toi, parce que sache une chose et tu ne l'oublieras jamais, j'ai souffert à ta place. Alors ce garçon, imaginez-vous la dévastation dans son âme et dans sa conscience, c'est quelque chose, est sorti de chez le gouverneur, et la première chose qu'il a faite, il a été se laver. Il a mis des habits propres. Et depuis ce jour, où il a réalisé tout simplement ce que son frère avait fait pour lui, paraît-il qu'il changea complètement d'existence. Vous avez compris ce que ça veut dire? Alors écoutez, je reprends Ésaïe. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est la conversion? Qu'est-ce que c'est la repentance? Qu'est-ce que c'est que la nouvelle naissance? Sinon cette histoire? Qu'est-ce que c'est que l'histoire de Jésus-Christ? C'est l'histoire de quelqu'un qui meurt à notre place. C'est quelqu'un qui va donner sa vie. Et c'est quelqu'un qui nous dit, après avoir donné sa vie, nous a rendu capable de croire à ce qu'il a fait, eh bien tout simplement de dire maintenant « vie de ma vie ». Et il y a quelqu'un qui le dira d'une manière admirable, c'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, c'était un meurtrier. L'apôtre Paul, c'était un vindicatif, c'était un religieux extrémiste, nous pourrions dire. Et à un moment donné, il écrira ses paroles de feu, ses paroles du ciel. Il dira, après avoir pleuré sur ses fautes, sur son ignorance, sur son, comment dire, sur son aveuglement religieux, il dira, mais si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est pour ça qu'il a écrit ces choses. Écoutez, qu'est-ce que nous avons lu tout à l'heure dans cette belle parole d'Ésaïe? Je le relis. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous avez compris? Avec mon histoire? C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni. Ah oui, il méritait bien le jugement, vous savez. Hein. Vous savez, le garçon, là, il méritait bien le jugement, il l'avait tué, mais c'est pas lui qui est mort. Bien la différence. Hein. Il a été frappé de Dieu. Tout le monde pouvait dire, Jésus à la croix, regardez cet homme. Il a tellement troublé depuis 3 ans notre pays, notre religion, notre foi, nos croyances, nos rites, nos cérémonies. Eh bien, c'est Dieu qui le juge. Et moi, je suis sûr que le jour où Jésus a été mis en croix, il y avait beaucoup de gens qui étaient persuadés, même des gens qui avaient reçu du bien de Jésus, qui étaient persuadés parce que les choses avaient changé, elles s'étaient complètement retournées, et il y avait des gens qui disaient, bah oui, mais non, c'est pas lui, c'est pas possible que ce soit le Messie. Regardez, Dieu ne permettrait pas qu'il soit crucifié après avoir guéri des malades, ouvert les yeux des aveugles, ressuscité des morts, etc., etc. Fait tant de choses dans la nature. Et dans cette humanité, c'est pas possible. Donc Dieu le frappe et le condamne. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui, il y a des millions et des millions de gens qui pensent encore que Jésus a été jugé par Dieu. Mais c'est pas Dieu qui a jugé Jésus. C'est Jésus qui a été jugé en raison de nous-mêmes. Et pour nous, à notre place. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, et il nous est dit que le châtiment qui nous donne la paix c'est le salut, c'est la réconciliation avec Dieu, c'est cette paix de conscience dans nos pensées, dans notre esprit. Aujourd'hui nous sommes sauvés, et il nous est bien précisé, le châtiment qui nous donne la paix, il est tombé non pas sur nous, mais il est tombé sur lui. Et vous savez pourquoi il est tombé sur lui? Parce que c'était en vue du salut universel pour tous les hommes. Et aujourd'hui, on peut dire que le salut universel est offert à tous les hommes. Il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Ceux qui croient sont dans la paix de Dieu. Nous sommes réconciliés, nos péchés ont été pardonnés, le châtiment est passé sur nous, mais sans nous atteindre. Et ceux qui ne croient pas, eh bien, ils restent encore dans cette hantise et dans cet épouvantable sentiment de la mort. Alors, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, rendez compte. Moi, je pense à ce garçon, il a fallu certainement du temps pour qu'il se guérisse de ses blessures invisibles. Son frère qui est mort à sa place. Nous étions tous errants comme des brebis, en nous donnant de bonnes raisons, en nous donnant de bonnes justifications que nous sommes justes, que nous sommes meilleurs que les autres, que nous n'avons pas péché, ou que si nous péchons, il y a des grands péchés et des petits péchés. Il n'y a pas de péché véniel, il n'y a pas de péché mortel. Le péché, c'est le péché. Tout simplement, et nous sommes tous condamnés par rapport à ça. Alors, nous étions tous errants comme des brebis en essayant de trouver des solutions ou des subterfuges pour échapper au jugement. Et chacun suivait sa propre voie, ou sa propre religion, ou sa propre théologie, ou sa propre philosophie. Il était maltraité, opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, vous souvenez, hein? Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. L'agneau du sacrifice. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est là. Et il n'a pas ouvert la bouche. Il était mort pour nous. Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Est-ce que cet après-midi, je m'adresse à un auditoire où vous connaissez et vous pouvez dire spontanément oui, mais peut-être que s'il y avait quelqu'un qui avait besoin vraiment de dire « Je crois que Jésus est mon sauveur, je lui demande pardon de mes péchés », eh bien vous êtes sauvé au moment même que vous êtes en train de le faire. C'est ça le salut de Dieu. C'est beaucoup plus simple qu'on le pense. Ce n'est pas passer par le centre évangélique ou une religion d'une manière ou d'une autre, c'est de croire que Jésus est notre sauveur. Et qu'il a payé à ma place, moi le criminel, moi le menteur, moi le voleur. Et qu'aujourd'hui, eh bien, je peux me présenter devant lui, où Jésus peut me dire, mais tu n'es plus un voleur, tu n'es plus un menteur. Parce que moi, j'ai payé le prix de ton mensonge et de tes vols et de tous tes larcins et de toutes tes histoires. C'est payé. Si vous avez une dette quelque part, et que le commerçant vous dise, voilà, je viens régler la dette, et qu'il vous dise, mais maintenant, quelqu'un a payé à votre place. Dites donc, c'est bien. Hein. Il y en a qui seraient contents, ceux qui sont en surendettement, vous rendez compte? Mais c'est ce que fait quelquefois le gouvernement avec certains. Hein. Voilà, c'est fini. Est-ce qu'on leur dit, surtout, ne recommencez pas? C'est autre chose. Mais c'est ça ce qui est extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui, mon ardoise, ma facture que j'ai devant Dieu, aujourd'hui, et c'est ce qui donne la paix à nos cœurs, c'est qu'aujourd'hui, c'était payé. Quelqu'un est venu en disant, voilà, ben ça y est, c'est fini. Qu'est-ce qu'on pourrait être content, hein? Quand vous faites jour et nuit du souci parce que vous avez une dette qui vous écrase et que là, on vous dit, mais c'est fini. Bravo, Seigneur. Je continue, hein? Non. Normalement, pour une personne intelligente et consciente et logique, on recommence pas. Par égard à celui qui a payé. Eh bien, c'est ça notre histoire, tout simplement. Alors que le Seigneur nous bénisse cet après-midi. J'ai voulu l'illustrer, je crois que c'est compréhensible, non, ça va? Autrement, je recommence. Hein. Il y en a qui ne l'ont pas entendu. Hein. Voilà, mais c'est extraordinaire. C'est si simple d'être sauvé. On se fait beaucoup de complications, c'est vrai. On se dit, mais mes doutes, j'ai fait ça, ceci et cela, mais est-ce que Dieu peut me pardonner là? Alors on se dit, oui, il peut me pardonner là, mais il ne me pardonnera jamais ici. Écoutez, le Seigneur pardonne tout. Parce qu'il a payé le prix le plus fort. Et je termine avec ce dernier verset qui est le verset le plus connu. Retenez-le dans votre cœur. Quand il nous est dit, car Dieu a tant aimé, qu'il a tellement aimé, qu'il a passionnément aimé le monde, mais un monde qui n'était pas forcément aimable, un monde de révolte, un monde de courroux, un monde de colère, un monde de crimes et de meurtres. Eh bien, c'est ce monde-là qu'il a aimé, afin que quiconque, il a donné son Fils unique, c'est-à-dire Jésus. Cette tunique maculée de sang, pour le sang que nous avons peut-être nous commis à travers tous nos péchés, eh bien, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, quiconque croit en lui. C'est simple de croire. Je crois? Je veux croire? Seigneur, donne-moi de croire en toi, et nous sommes sauvés. Et vous allez voir la paix de Dieu qui vient dans nos vies, qui va nous inonder, qui va nous transformer. Quel bonheur! Moi, je me souviens, ça fait 40 ans, plus de 40 ans maintenant, le jour où on m'a prêché l'évangile, c'était quelque chose de merveilleux, quelque chose de fabuleux. J'enlève le mot fabuleux parce que ça fait fable. Mais c'était pourtant la vérité. Et je me souviens, j'étais tout jeune homme à l'époque, et quand on m'a parlé que je pouvais être pardonné en Jésus-Christ, mais quel fardeau est tombé de mes épaules. Je respirais pour la première fois de ma vie. Je commence à respirer à 19 ans. Avant, j'avais des bouteilles d'oxygène. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous donne sa grâce. On va simplement terminer en remerciant le Seigneur pour sa parole que nous voulons garder dans notre cœur. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour ces belles histoires. L'église, l'évangile et la Bible est une belle histoire, mais une histoire vraie. À la grande différence de tout ce qui peut être raconté autour de nous. Oui Seigneur. Nous voulons te remercier pour tout cela. Tu bénis mes frères et mes sœurs, tu bénis mes amis, tu bénis ta parole qui parcourt le monde et qui va plus loin que nous pouvons nous l'imaginer, et qu'ainsi, Seigneur, eh bien, il y ait des hommes et des femmes, en entendant ta parole, puissent s'incliner devant toi et tout simplement te dire, eh bien, Seigneur, c'est vrai que tu es mort pour moi, et je crois que tu es mort pour moi, et je crois, en effet, que tu as pris ma place, que tu t'es fait, en effet, tout simplement le substitut, et si aujourd'hui je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ, à cause de Christ, qui vit en moi, que je peux véritablement commencer une nouvelle vie. Merci mon Dieu, merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.